Alors aujourd'hui, on va voir, je crois au Christ ressuscité. Il est ressuscité d'après les Écritures. Voilà. C'est un point capital de notre foi. Nous allons voir la résurrection du Christ, ce qu'elle implique dans notre vie, ce que ça veut dire la résurrection du Christ, et que nous laisse l'Écriture pour entrer dans ce mystère. Alors, écoutons d'abord peut-être saint Paul nous dire ces paroles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et votre foi est sans objet. Nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés, et puis ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort était venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. C'est la conviction de Paul, c'est que la foi en Jésus-Christ ressuscité est capitale. Comme il le dit lui-même, si nous avons mis notre foi au Christ que pour maintenant, ben c'est pas grand-chose, parce que le jour où nous mourrons, ben il n'y a plus d'effet de la résurrection. Voilà. Et puis, si nous ne croyons pas à la résurrection du Christ, si nous ne croyons pas à la résurrection possible des morts, le Christ n'est pas ressuscité. Et donc, toute la foi chrétienne tombe. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous dit l'Écriture. Donc il est important de rentrer dans ce mystère de la résurrection, d'en faire l'expérience, la conviction intérieure, parce qu'elle est décisive. Et je voudrais aussi que nous prenions le temps d'entendre la parole de Dieu à travers deux récits. Tout d'abord, un long récit de la résurrection du Christ dans l'évangile de saint Jean, et puis un autre récit de la résurrection du Christ dans l'évangile de saint Luc. Dans l'évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine restait là dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes. Et à l'endroit où le corps de Jésus avait été posé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se retourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Ce même soir, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » De l'Évangile selon saint Luc. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui, à Jérusalem, a ignoré les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, et ils l'ont condamné à mort, et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris ? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. À travers ces récits, j'en ai pris deux, il y en a d'autres, il y en a dans Marc, il y en a dans Matthieu, des récits de la résurrection du Seigneur. Il nous est donné, qui sont assez longs, il nous est donné de comprendre l'expérience du ressuscité. Alors je voudrais dire déjà plusieurs éléments de base pour comprendre la foi en la résurrection du Christ, puis après peut-être commenter l'Écriture de manière simple pour que nous rentrions dans le mystère de la résurrection du Christ, et puis après voir les effets de la résurrection dans notre vie, et voir comment ça irrigue toute la vie de l'Église et d'un baptisé, et comment ça nous envoie en mission. Tout d'abord, peut-être quelques présupposés. À l'époque de Jésus, certains pensaient qu'il y aurait une résurrection des morts. D'autres non. Quand Paul sera arrêté et mis en procès devant les Juifs, il essaiera justement de jouer sur le fait que certains croyaient à la résurrection des morts et d'autres non, pour pouvoir gagner la défense de certains Juifs. Donc les avis étaient partagés sur cette question-là. Mais globalement, dans le monde grec, à l'époque du Christ et à l'époque où lequel vont prêcher les apôtres et particulièrement Paul, la résurrection des morts était quelque chose de pas du tout normal. Pourquoi ? Parce que la pensée grecque, la pensée qui était dominante, qui était aussi véhiculée dans la pensée romaine, c'était qu'effectivement le corps n'était pas quelque chose de très digne. L'homme fallait qu'il se sépare de son corps. Donc on n'espérait surtout pas qu'on allait avoir une résurrection des corps. C'est très important de penser cela parce que souvent on nous dit que l'émancipation du christianisme s'est faite parce qu'il avait une dimension très fraternelle, très sociale et Dieu d'amour, et que finalement c'est plutôt des valeurs chrétiennes qui ont pu à la rigueur irriguer tout le bassin méditerranéen, et donc finalement c'est comme ça qu'on explique la réussite du christianisme. Alors qu'effectivement, le christianisme intègre en lui-même des notions d'amour parce que Dieu est amour, et nous le voyons en Jésus-Christ. Mais le fondement du christianisme, que le Christ soit mort et ressuscité, ça, c'était pas du tout compatible avec le milieu ambiant. Donc c'était même un scandale. Et quand Paul va prêcher, il s'entendra dire dans les Actes, vous regarderez ça au chapitre 17, les Grecs lui répondront ça. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient, les autres déclarèrent « Sur cette question, nous t'écouterons une autre fois. » Sous-entendu, ce n'était pas très sérieux. Donc il faut bien comprendre que si le christianisme s'est répandu et qu'en plus il a proclamé « Christ est mort et ressuscité », c'est effectivement qu'il y a dû avoir des effets transformants dans la vie des gens pour pouvoir causer un impact. Parce que la mentalité ambiante grecque n'y était pas préparée et qui est plutôt hostile. Donc c'est faux de dire, c'est simplement par des valeurs un peu humaines, etc. C'est une relecture du XXe siècle qui n'a pas vraiment de prise. Voilà. Alors est-ce qu'on peut prouver la résurrection du Christ ? C'est très intéressant. On ne peut pas prouver scientifiquement la résurrection du Christ. Mais nous pouvons prouver des signes effectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que le fait que le Christ soit ressuscité est pour nous une réalité historique. Notre foi s'enracine dans une base historique. Jésus est ressuscité un jour précis, dans un lieu précis qui était un tombeau. Il est pour ça naturel et normal qu'il n'y ait pas de corps dans ce tombeau. Et si nous retrouvions le corps de Jésus, le Seigneur ne serait pas ressuscité et la foi chrétienne tombe. C'est un fait historique. Merci Seigneur, il n'y a pas de corps dans le tombeau du Christ. Le corps est vide, le tombeau est vide. Ça, c'est le point d'ancrage historique fort. Le tombeau est vide. Ça ne prouve pas que le Christ est ressuscité, ce n'en est qu'un signe. Mais vous voyez, il y a un attachement concret à l'histoire, c'est qu'on parle bien d'un Jésus de Nazareth qui a existé, et nous savons que ce personnage a existé historiquement, c'est indubitable, et c'est même plus fort historiquement que bien d'autres personnages historiques, et que nous savons qu'il a été enterré dans un lieu précis, et ça aussi c'est un fait historique indubitable, et qu'on n'a pas son corps. Et là-dessus, c'est l'appui historique. Nous allons voir, et donc c'est important, notre foi repose sur du réel. Elle n'est pas immatérielle, c'est pas, on va dire, si Jésus est ressuscité, si un jour on trouve son corps, tant pis, je croirais quand même que Jésus est ressuscité. Non, la foi s'écroule, parce qu'elle est en prise réelle sur le concret, l'historique. Voilà. Mais ce signe du tombeau vide n'est pas un signe assez suffisant pour dire que le Christ est ressuscité. Et des archéologues honnêtes, toute personne qui fait une recherche intellectuelle honnête, pourra dire effectivement le tombeau est vide. Effectivement aussi, la foi au Christ ressuscité s'est propagée, et nous ne savons pas forcément comment, dans un contexte plutôt hostile, mais ça ne prouve pas qu'il est ressuscité. Ça, c'est juste en termes intellectuels. Le croyant a des garanties de foi plus grandes, qui sont des garanties de foi. La première, c'est l'expérience personnelle que nous pouvons faire du Christ ressuscité, qui vient des fois peut-être après l'expérience de l'Église, quand on nous a transmis la foi, d'autres des fois c'est d'un coup. Nous avons des gens qui découvrent le Christ ressuscité sans avoir forcément entendu parler tellement de Jésus, que ce soit dans d'autres religions, que ce soit même quand ils étaient athées. Donc on peut faire l'expérience du Christ ressuscité, s'il est ressuscité. Et c'est important. Ça, c'est l'expérience personnelle qui peut être plus ou moins forte, ce qui va de l'apparition, comme à saint Paul sur le chemin de Damas, qui ne va pas voir le Christ ressuscité, mais il va entendre le Christ parler, et nous le reverrons, qui va lui dire beaucoup de choses. D'autres vont voir l'expérience du Christ ressuscité comme des apparitions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les signes. Comment tous ces miracles, comment tous ces signes de conversion brutale, comment tous ces signes de gens qui avaient peur, qui se mettent à évangéliser autour d'eux, dans des milieux hostiles. Plein de signes qui nous montrent, il semble, à la fois de l'authenticité, à la fois même du surnaturel, du miraculeux, qui sortiraient de cette foi au Christ ressuscité. Donc c'est des signes qui alimentent notre foi, que nous pouvons voir autour de nous, mais qui ne remplaceront jamais et qui complètent l'expérience du Christ ressuscité pour nous. Et le point central de cela, c'est l'expérience des 12. La foi de l'Église repose sur le témoignage des 12, et particulièrement celui de Pierre, le porte-parole des 12, celui qui est Pierre, qui est appelé à édifier la foi de ses frères, qui est le premier pape. La foi de l'Église est une foi apostolique qui repose sur les apôtres et sur la question de la résurrection du Christ. C'est central. Et c'est pour ça que les apôtres sont les témoins oculaires, sont ceux qui ont vu, qui ont touché, qui ont entendu le Christ ressuscité. Ils en sont témoins. Et c'est pour ça que vous voyez que les pèlerins d'Emmaüs, qui font une expérience du Christ ressuscité, vont le voir les apôtres et ils vont s'entendre dire « C'est vrai, le Christ est ressuscité, d'ailleurs il est apparu à Simon. » C'est-à-dire, Pierre confirme cela. Parce que la foi de l'Église repose sur la foi des apôtres, comme un témoignage de transmission de foi historique, d'expérience. Et de génération en génération, on va se la transmettre. Et c'est toujours l'expérience des apôtres qui va confirmer la foi du Christ ressuscité. Paul va faire une expérience dans son parcours sur le chemin de Damas du Christ ressuscité. Il prêchera le Christ ressuscité et à un moment donné, il sentira le besoin d'aller à Jérusalem, revoir les apôtres pour se confirmer, pour ne pas avoir travaillé en vain. Comme si la foi des apôtres confirmait. Et il se sentira confirmé et alors il continuera. C'est important. Donc vous voyez, en plus de ce questionnement historique que nous pouvons dire, ça n'est pas surgi de nulle part et en même temps ça semblait hostile au milieu et ça s'est répandu, c'est étonnant. Et nous allons voir, même il y a beaucoup de signes de bonne volonté, je peux vous en donner plusieurs. Il n'y a pas de signes miraculeux dans la résurrection du Christ. Nous n'avons pas leur hache qui est décrite. C'est-à-dire le moment de la résurrection, je ne sais pas moi, tout lumineux, etc., où on voit Jésus se relever. Les récits ne nous racontent pas quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, alors que c'est pourtant l'élément fondateur de la foi. On aurait inventé cet élément, on s'y est pris autrement. Les récits ne nous racontent pas aussi des super-héros convaincus qui vont annoncer la foi. Eh ben non, ils ont plutôt peureux, ils doutent au départ et leur foi met du temps à s'affermir. Les premiers défenseurs de la foi au ressuscité vont être des femmes. Et nous savons le peu de crédibilité qu'avait la femme à cette époque. C'est très intéressant. Les récits aussi nous montrent des petits détails de simplicité et d'authenticité. Un linge roulé, il apparaît parmi les siens autour d'un repas, lors d'une rencontre, où eux-mêmes se posent des questions. Vous voyez, des éléments triviaux qui sonnent l'authentique. Vous voyez, ce n'est pas un grand programme. Ce sont presque des anti-héros qui font une expérience dans des éléments triviaux qui n'ont certainement pas pu être inventés par eux-mêmes, par des porte-paroles qui ont du crédit ou pas du crédit, comme les femmes à l'époque. Et c'est là-dessus que repose la foi. Donc on sent que ça sent l'authenticité. Et pourtant, ces mêmes anti-héros de cette expérience vont se sentir transformés pour agir. Vous voyez, comme s'il y avait une force, une conviction qui naît de ces anti-héros et qui vont en faire des prédicateurs forts et qui vont générer le message de la résurrection du Christ dans des milieux hostiles, sociologiquement, historiquement, et pourtant ça a de l'impact. Ça sent le crédible, vous voyez, ça sent l'intervention, on n'a pas pu l'inventer ça. Voilà, ça c'est pour le contexte, et je vous nous rappelle, ça ne remplacera pas l'expérience personnelle de Christ ressuscité, la foi des 12 comme socle, comme transmission, et les signes, comme je vous en donne là ou d'autres, les miracles, les conversions, ou ces signes qui sentent l'authenticité. Donc vous voyez, nous avons deux dimensions, cette dimension d'assise historique, avec le fait que le Christ, effectivement, le tombeau doit être vide, et il est absolument vide, et en même temps, tous ces signes confirmant, qui nous font, qui, plus que ça, confirmant, pénétrant dans le mystère de la foi, qui nous font montrer l'expérience du Christ ressuscité. C'est un scandale hein, pour beaucoup. On ne peut pas penser que l'homme va réunir son corps et son âme. Pour beaucoup de religions, il faut séparer l'âme du corps parce que c'est une prison. Donc la conception, nous allons voir, du Christ ressuscité est vraiment provocante. Jésus est ressuscité, quels sont les effets? Jésus est ressuscité parmi les 12. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils le virent et ils étaient dans la joie. Une des expériences du ressuscité, c'est qu'on le rencontre personnellement. On fait l'expérience de sa paix et de sa joie. Et il nous donne du courage. Marie-Madeleine, qui rencontre Jésus, Jésus l'envoie. Elle a du courage pour aller dire les choses aux apôtres. C'est étonnant. C'est la même chose pour les pèlerins d'Emmaüs, qui sur la route sont très bouleversés. Et pour les premières communautés chrétiennes, là encore c'est réel, certains étaient tellement bouleversés qu'ils s'enfuyaient, historiquement, c'est ce qui s'est passé à Emmaüs, soit d'autres se barricadaient, de peur d'être arrêté, c'est comme les apôtres. C'est le contexte ambiant. Et pourtant, cette expérience de la résurrection va les pousser à dépasser leur peur et à être courageux pour annoncer. Ça aussi, ils n'ont pas pu l'inventer. Vous voyez, c'est des signes. Alors le Christ est ressuscité, apporte la paix, la joie, le courage, la capacité entre missionnaires. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? La résurrection, ce n'est pas la réanimation ni la réincarnation. La résurrection, il faut dire que c'est un pilier central, je dis notre foi. Or, aujourd'hui, on dit statistiquement, plus ou moins vrai, que 50% des catholiques chrétiens, en général, ne croient pas à la résurrection du Christ. Donc, en gros, plus de 50% ou 50% des chrétiens catholiques ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils sont déistes au mieux. Ils croient que Jésus, c'est peut-être un maître de sagesse qui guide Dieu, mais ils ne croient pas à la résurrection du Christ. Donc, en fait, ils ne croient pas au fondement de la foi chrétienne. Donc ils ne sont pas chrétiens, ils sont déistes de culture chrétienne. Ce n'est pas pour juger, mais c'est pour montrer le fait central de l'importance de la résurrection du Christ. Et c'est quoi la résurrection du Christ? C'est qu'un homme qui a partagé notre humanité est mort physiquement, a été enterré. Et les centurions romains, les juifs, ont constaté sa mort clinique, réelle. Ce n'est pas une mort dans le coma, et puis on espère que ça va être animé 3 heures après, ou 5 heures après, ou avec un appareil, on aurait pu le maintenir discretos. Non, non, il est vraiment mort. Vraiment mort. Et après, il n'est pas ramené à la vie, simplement. Il a une vie de ressuscité, avec son corps, qu'il avait avant, avec des propriétés nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'est pas réincarné dans un autre corps. Ce n'est pas la réincarnation. Ce serait toujours ici-bas. Non, non, c'est autre chose, on va le voir. Et ce n'est pas une réanimation à la vie. La résurrection du Christ, c'est le Christ qui s'est fait homme, qui rentre dans le monde de Dieu avec son humanité. Il rentre dans un corps glorieux. Et c'est quoi un corps glorieux? C'est un corps qui ne peut plus mourir. Un corps qui garde les traces de son histoire. Le Christ garde les plaies. C'est comme ça que Thomas va le reconnaître. Il va toucher les plaies du Christ. Et pourtant, il a des attributions nouvelles. Le Christ ressuscité a des attributions nouvelles. Il semblerait qu'on a du mal à le reconnaître, puisque Marie-Madeleine le confond avec le jardinier. Puisqu'il arrive à faire un chemin avec les pèlerins d'Emmaüs et qu'il l'accueille, ils se disent « ce gars est sympathique ». On parle avec lui, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent qu'à la fraction du pain. Nous allons voir ce que c'est. Ou alors, des fois, on le reconnaît plus manifestement quand il apparaît aux apôtres. Donc, on a du mal à le reconnaître et pourtant on sent que c'est lui. Et pourtant on sent qu'il est différent. Tiens, il arrive à rentrer dans des pièces qui étaient pourtant complètement fermées. Est-ce que ça veut dire qu'il l'a? Il l'a. Il dépasse la matière physique? Quelles sont les propriétés du corps ressuscité? Nous voyons que le Christ ressuscité a des propriétés nouvelles. Benoît XVI dit, en employant du langage moderne, c'est la mutation définitive de l'humanité. Nous sommes appelés à être ressuscités. Nous voyons que quand nous parlons du Christ ressuscité, nous parlons du dernier article de notre foi, « Je crois à la résurrection des morts, à la résurrection de la chair ». Nous sommes appelés à être un jour comme le Christ ressuscité. Qu'est-ce que c'est qu'un corps ressuscité? Un corps ressuscité, c'est un corps, on en donne quatre attributs. C'est un corps, on dira, l'impassibilité, la clarté, l'agilité, la subtilité. Alors je vais expliquer tout ça. Un corps impassible, c'est un corps qui ne peut plus mourir. Un corps qui ne peut plus être corrompu. Un corps qui ne peut plus faire de mal, plus de péché avec. Donc à la fois spirituellement et à la fois physiquement. Ça, c'est des propriétés du corps glorieux. Évidemment, Jésus n'avait pas péché, mais son corps était corruptible. Il pouvait se décomposer. Il était un corps comme nous, vous et moi. Et son corps glorieux ne pourra plus se décomposer. Il est ressuscité, première chose. Deuxième chose, son corps irradie de lumière. Son corps irradie de lumière. Et Jésus, nous avons montré quelque chose comme signe précurseur dans sa transfiguration. Eh bien, le corps de clarté, qu'est-ce que c'est? C'est le rejaillissement de la sainteté de Dieu sur le corps. Le corps est brillant et rejaillit de la sainteté de Dieu sur notre corps, c'est-à-dire de l'union de l'âme avec Dieu qui agit sur le corps. Il y a une unité totale. Nous, un jour, quand nous serons ressuscités dans nos corps, nous aurons des gloires particulières, proportionnées à chacun, d'une personnalité particulière qui se verra sur le corps glorieux que Dieu nous donnera. C'est ce qu'a le Christ. Impassibilité, incorruptibilité, clarté, cette lumière, agilité. Qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est un corps qui dépasse l'espace et le temps, qui peut se mouvoir sans contrainte, se déplacer à tout instant sans le moindre effort, et peut-être même à plusieurs endroits à la fois. De fait, le Christ ressuscité, beaucoup vont le voir. Il va apparaître à plusieurs et disparaître comme il veut. Il va passer là où il veut. Ça, c'est cette capacité, cette agilité. Nous serons bien matériels, mais en même temps, nous aurons des propriétés nouvelles. Et une particulière, ce qu'on appelle la subtilité, c'est qu'on voit bien que le corps de Jésus est composé de chair et d'os quand il est ressuscité. C'est le même corps qu'avant. C'est son corps, c'est pas un autre corps. Alors pour nous qui allons être a priori décomposés, Dieu recomposera notre corps, il en a le pouvoir, il crée à partir de rien. Mais ce sera bien notre corps sans difformité, notre corps sans atrophie, dans une vraie beauté, dans une union de l'âme et du corps qui rayonnera et qui aura des propriétés nouvelles. Et cette subtilité, c'est qu'à la fois il y a de l'os du corps et il y a une âme qui est liée à elle, et en même temps, nous pourrons peut-être franchir la matière. Le Christ entre dans une pièce sans passer par la porte, et pourtant il est fait de corps. C'est-à-dire, on appelle ça, c'est subtil, c'est un alliage qui nous dépasse, c'est pas un alliage métaux, c'est une composition que Dieu permet dans le corps glorieux. Vous voyez, il y a des attributions du corps glorieux. Qui a un corps glorieux? pas les saints. Les saints sont au ciel avec leur âme et leur corps est mort. Donc ils n'ont pas le corps glorieux. La seule à avoir un corps glorieux, c'est la Vierge Marie. Et d'ailleurs, la Vierge Marie, quand elle apparaît, les voyants reconnaissent que quand ils l'ont pu la toucher, ils ont senti la chaleur du corps. C'était du concret. Parce qu'elle a un corps glorieux. Elle est rentrée au ciel avec son corps, comme le Christ. Ce sont les deux êtres qui ont un corps. Et quelque part, la résurrection du Christ, pour nous, est un signe d'espérance, c'est qu'un jour, à la fin des temps, le Seigneur fera ressusciter nos corps. Et nous aurons un corps. C'est pour ça que nous aimons notre corps. Nous aurons un corps ressuscité. Et quelque part, vous voyez, l'être humain n'est pas fait pour être séparé de son corps. Nous ne sommes pas créés angéliques. Nous sommes créés hommes et femmes, c'est-à-dire âme et corps. C'est un scandale d'être séparé. Et la résurrection est une réunification des deux. Définitivement, nous serons ce que nous devons être dans la résurrection. Revenons sur la valeur du Christ ressuscité. Le Christ est ressuscité, ça dit beaucoup de choses. Ça dit qu'il est Dieu, parce qu'il a le pouvoir sur la mort. Ça dit qu'il a vaincu le péché, et nous allons voir pourquoi. Ça dit que tout ce qu'il a dit est vrai. Ça dit qu'il accomplit les Écritures. Alors, ça dit qu'il est Dieu. Le Christ ressuscité, personne n'a le pouvoir de vaincre la mort. Mais celui qui a vaincu la mort, c'est parce qu'il est la vie lui-même. Il le dit lui-même en Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Celui qui est la vie, qui donne la vie au monde, au cosmos, qui est le Dieu vivant, peut faire ressusciter un corps, comme il l'a fait pour Lazare en chapitre 11 de Saint Jean. Il ressuscite, c'est son action personnelle, c'est l'action de la deuxième personne de la Trinité, du Fils éternel, qui ressuscite. Ça prouve qu'il est Dieu, qu'il a tout pouvoir sur la mort. Et en même temps, cette action de la résurrection, c'est une action de la Trinité. Le Père relève son Fils d'entre les morts, et cette gloire qui fait que le Christ entre véritablement dans un corps glorieux et ressuscite, c'est aussi une action du Saint-Esprit. Voyez, c'est l'action de la Trinité. C'est le Dieu vivant. Ça prouve qu'il est Dieu et qu'il est, voilà, il fait partie du Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Première chose. La deuxième chose, ça cautionne tout ce qu'il a dit. Il avait dit qu'il fallait que le Fils de l'homme meure et que trois jours après, il ressusciterait. Il avait fait des miracles. D'autres peuvent faire des miracles. Il avait fait des guérisons. Il avait fait des exorcismes. D'autres le font. Il a bien parlé du Seigneur. D'autres le font. Mais il en a parlé de manière particulière. Ça, tout le monde ne le fait pas. Mais il est ressuscité. Ça prouve que ça donne une caution plus grande à ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il a dit vrai. Parce qu'il l'avait annoncé, il l'a fait. C'est vrai. Du coup, tout le témoignage avant prend une amplitude. C'est vrai. Troisième chose. D'après les Écritures, dans les pèlerins d'Emmaüs, Jésus reprend toute l'histoire pour leur montrer qu'il fallait que le Messie souffre et qu'il ressuscite. Et que Paul reprendra cette expression d'après les Écritures. Pareil, dans le récit de Saint Jean dans la résurrection, vous avez que Saint Jean rentre dans le tombeau après Pierre, il voit le tombeau vide, le linge roulé. Alors je m'arrête sur le linge roulé. Ce n'est pas roulé comme on roule un drap ou comme on roule un duvet. C'est roulé autour du corps et affaissé. Le corps n'est plus là, mais c'est affaissé, le drap. C'est un signe. Ça ne prouve pas qu'il est ressuscité, mais c'est un signe qui pose question. Et Jean nous dit, il vit et il crut parce que d'après les Écritures. Voyez, c'est-à-dire que Jean a cette intelligence pénétrante dans la foi de relire tout ce que le Christ avait dit. Et il comprend dans les Écritures, d'après ce qu'il avait dit, d'après les Écritures et les prophéties annoncées, qu'effectivement c'était la résurrection. Voyez, donc ça, quelque part, le Christ a accompli les Écritures. Vous avez ce même passage en Jean chapitre 2, au moment avec les marchands du temple. Jésus fait du nettoyage dans le temple et après il dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Et il est dit après dans l'Écriture qu'il ne savait pas de quoi il parlait, mais il comprit après que le temple dont il parlait c'était son corps. Que en trois jours ce temple, ce lieu de Dieu qu'il le relèverait, c'est sa résurrection. Vous voyez, il accomplit les Écritures. Donc il est Dieu, ce qu'il dit est vrai, il accomplit les Écritures. Donc c'est important, vous voyez, la résurrection du Christ pour nous est importante. Maintenant, la résurrection du Christ, c'est qu'on peut faire la présence du ressuscité. S'il est ressuscité, on peut goûter sa présence. Et je voudrais dire plusieurs points sur la présence du ressuscité. Nous pouvons le rencontrer. Dans la finale de Matthieu 28, le Seigneur envoie ses apôtres en mission. Allez dans le monde entier, faites de disciples, apprenez-leur à garder les commandements du Seigneur et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La présence du Seigneur nous est promise, il est avec nous jusqu'à la fin des temps, parce qu'il est ressuscité. Sinon, il n'est pas ressuscité. Non, il est ressuscité. Comment on peut le rencontrer? On peut le rencontrer de plein de manières, et nous voyons encore dans les récits de la résurrection que l'expérience du ressuscité est multiple. Et pour nous, elle sera diversifiée dans les parcours de notre vie et selon notre parcours personnel sera différente de l'autre. Le Christ est ressuscité d'abord parce que sa parole touche les cœurs. Parce que la parole de Dieu, parce qu'il est Dieu. Quand nous lisons l'Évangile, ce n'est pas simplement j'entends une histoire, mais s'il est ressuscité, il peut me parler. Et nous écoutons le Seigneur nous parler parce qu'il est ressuscité. Et c'est pour ça qu'à la messe, quand on proclame l'Évangile, on ne dit pas « Louange à la parole qui a été écrite il y a 2000 ans et que nous entendons qui va nous aider à croire ». On dit « Louange à toi Seigneur Jésus parce que tu parles en direct, parce que tu es ressuscité ». Et donc quelque part, quand nous proclamons la parole avec foi, nous croyons que le Christ ressuscité parle. Effectivement, et quand nous sommes touchés de manière particulière par certains versets de la parole de Dieu, c'est le Christ ressuscité avec son Esprit Saint qui nous l'imprègne dans le cœur. Donc il agit. Et aussi, ça c'est la parole explicite, forte, mais le Seigneur, dans l'âme de chacun, peut interpeller à un moment donné des personnes, parce qu'il parle au cœur de l'homme. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien l'Écriture, mais qui se sentent guidés vers le Seigneur. Et Jésus dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » C'est sa crucifixion, mais aussi sa résurrection et sa montée au ciel qui attire. Jésus ressuscité parle au cœur de l'homme et l'attire à lui. Voyez, une parole implicite, mystérieuse, qui agit dans la conscience de chacun. Mais cette parole aussi agit dans l'Église. Le Christ ressuscité agit dans son Église. L'Église n'a pas pu tenir si le Christ n'était pas ressuscité. L'Église, ce serait, on ne peut pas, comment dire, se persuader entre nous, sous les persécutions, que le Christ est ressuscité. On tient plutôt à sa peau et on se barre. Si les apôtres ont tenu et sont partis en mission, si Paul a subi persécution sur persécution, mais a continué, c'est parce que le Christ vivait en lui et il avait la force de Dieu en lui, qui était le Christ. Il dit lui-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ ressuscité qui vit en moi. Et l'Église, quelque part, tient parce qu'elle est le corps du Christ ressuscité. Le Christ est là au milieu de nous. Quand le Seigneur nous dit « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Donc l'Église est tient par le Christ ressuscité. Et vous voyez, c'est ce qui nous, vraiment, c'est la solidité de l'Église. Elle n'est pas humaine, elle est divine. La pierre angulaire de l'Église, c'est le Christ ressuscité. C'est lui qui tient l'Église. Donc elle ne mourra jamais, l'Église. Elle est voulue par le Christ ressuscité, qui est ressuscité, donc elle tient. Et Paul fait cette expérience, vous voyez, du ressuscité par rapport à l'Église qui était intéressante. Il est sur le chemin de Damas, il croit en Dieu, il est zélé. Et il découvre, il est aveuglé par une expérience mystique, il découvre que le Dieu dans lequel il croit, mais qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Et il capte que c'est Jésus. Il découvre le Christ vivant. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors là, il comprend qu'il a rencontré Jésus et qu'il l'a persécuté, et qu'il est vivant et qu'il est Dieu. Mais il n'a pas rencontré Jésus physiquement, alors comment il l'a rencontré? Il comprend qu'en persécutant des chrétiens, il persécute Jésus. Donc il comprend que toucher un chrétien, c'est toucher Jésus, parce que toucher un chrétien, c'est toucher quelqu'un qui est uni au Christ ressuscité parce qu'il est baptisé. Paul comprend que le mystère de l'Église, c'est que nous sommes unis au Christ ressuscité, nous sommes son corps, et que le ressuscité vit en nous quand nous nous réunissons, et que nous sommes par le baptême attachés au ressuscité. Et donc il est vivant, et Paul va faire une conversion totale sur le Christ et sur l'Église à partir de ce moment-là. Et nous rentrons plus profondément dans les sacrements. Le cœur, ce qui constitue, qui irrigue l'Église, en partie, c'est, pour une grande part, les sacrements. les sacrements, c'est toucher le ressuscité. Dans l'Eucharistie, vous avez le corps du ressuscité. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, c'est du direct, nous attendons ta venue dans ta gloire. Personne ne peut communier au Christ si le Christ n'est pas ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, le prêtre est un charlatan, l'Eucharistie, c'est que du pain. S'il est ressuscité, le prêtre agit en direct in persona Christi, c'est le Christ qui agit, et le pain devient le corps du Christ. Et voyez, parce que le corps du Christ a des attributs très particuliers, il est indivisible. J'ai beau couper l'Eucharistie en plein de morceaux, ça reste l'unique Seigneur ressuscité. Et c'est ce que font comme expérience les pèlerins d'Emmaüs, qui, en marchant avec le Seigneur qui les précède, vous voyez l'expérience du Christ, il peut nous précéder et anticiper nos actions. Il peut connaître ce que nous disons, parce qu'il nous entend, le Seigneur ressuscité. Paul, Thomas va dire aux apôtres, moi j'ai pas vu le Christ ressuscité, je ne croirai pas, il faudra que je touche. Mais Jésus a bien entendu ce qu'il lui a dit. Et 8 jours plus tard, il apparaît et dit, Thomas, mets tes mains dans mes côtés. Donc le Seigneur ressuscité entend. Il nous entend. Et donc l'expérience des pèlerins d'Emmaüs, c'est d'être précédé et d'être accompagné par Jésus sans le savoir. Donc rappelons-nous le Seigneur ressuscité qui nous a dit, je suis là avec vous jusqu'à la fin des temps, il est là. Il nous faut nous habituer à sa présence. Ils entendent la parole de Dieu être expliquée et ils diront à la relecture, notre cœur était tout brûlant quand nous expliquait les Écritures. Vous voyez, cette parole du Seigneur vivant qui explique les Écritures, le ressuscité explique les Écritures. Mais quand est-ce qu'ils vont le reconnaître vraiment? À la fraction du pain. La fraction du pain dans l'Écriture, c'est l'Eucharistie. À ce moment-là, ils font l'expérience directe du ressuscité. Pour eux, c'est le lieu où ils font l'expérience du ressuscité. Vous voyez, l'Eucharistie est le lieu de l'expérience du ressuscité. Et vous comprenez pourquoi que le dimanche, l'Eucharistie dominicale, c'est le jour, dimanche dies domini, de la résurrection. Et d'ailleurs, dans les récits de l'Évangile, c'est très intéressant, dans les récits de Saint Jean, le premier jour de la semaine, il apparut aux apôtres. 8 jours plus tard, il apparaît. C'est des jours du dimanche, c'est des jours de résurrection. Et le Christ leur dira, la paix soit avec vous. Exactement ce que dit le prêtre au nom du Christ ressuscité à la messe, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et il va les envoyer en mission. Vous voyez, c'est le jour de la résurrection aujourd'hui. Donc ils font l'expérience dans les sacrements. Pareil dans Saint Jean, quand le Christ est ressuscité, il leur donne la paix, la joie. Il les envoie en mission, il leur dit, recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, tout homme à qui vous garderez les péchés, ils seront gardés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ, en même temps, donne le sacrement de réconciliation. Et la réconciliation, la confession, c'est le lieu où je fais l'expérience du Christ ressuscité qui me pardonne les péchés. C'est un lieu où un sacrement de guérison, un sacrement de renouvellement dans la vie spirituelle, c'est un sacrement de résurrection. Je m'arrête sur la vie spirituelle, la mort. Les conséquences du péché sont notre séparation à Dieu. La plus profonde, c'est la mort physique. L'homme est créé physiquement, illimité. Nous aurions dû, physiquement, on peut mourir. Mais pour Dieu, Dieu ne voulait pas que nous passions à la mort. C'est à cause de l'entrée du péché original par nos premiers parents que nous sommes rentrés, que Dieu nous a laissés à la mort. Normalement, nous n'aurions pas dû mourir et rentrer avec notre finitude, pas immortalité, mais finitude, en Dieu. Et ne pas mourir. Or, comme nous dit l'Écriture, parce que la mort est entrée à cause du péché. Et donc, une des conséquences ultimes du péché, c'est la mort physique. Or, le Christ, quand il ressuscite, il vint jusqu'au dernier kara, il vint du verbe vaincre, jusqu'au dernier kara, j'allais dire jusqu'à la dernière goutte, les effets de la mort. Le Christ ressuscité vint la mort. À ce moment-là, la mort n'a plus de prise, les conséquences n'ont plus de prise du péché sur l'homme. Et quelque part, quand nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans la mort et de la résurrection du Christ, et j'allais dire notre dernière mutation, pour reprendre le mot de Benoît XVI, c'est qu'un jour nous serons ressuscités en Christ avec un corps glorieux, et les effets du péché n'auront plus d'impact sur nous, la mort n'aura plus du tout d'impact sur nous. C'est pour ça que l'Écriture dit que le Christ est le premier-né d'entre les morts, parce que c'est une nouvelle création. C'est très important de penser cela. Alors nous voyons les effets pour nous du Christ ressuscité, c'est quand nous allons parler de lui, c'est d'abord de le fréquenter, parce qu'il est vivant, dans sa parole, dans les sacrements, dans l'Église, dans notre cœur, qu'il peut nous rendre ardents à découvrir l'Écriture, qu'il peut nous apporter la paix et la joie, c'est ce qu'il donne aux apôtres, et cette audace. Et quelque part, quand nous témoignons du Christ ressuscité, ne nous appuyons pas sur notre force, mais appuyons-nous sur le fait qu'il est là et qu'il nous pousse à le faire et qu'il va agir si nous le faisons. Voyez ? Quelque part, nous sommes des chrétiens qui croyons que le Christ ressuscité est dans un bocal. C'est-à-dire qu'il est dans l'Église, mais dès que nous sortons, il n'y a plus que nous-mêmes. Puis on se sent un peu tout nu, on se dit, mais on ne va pas y arriver. Mais non, le Christ ressuscité est avec nous, à côté. Il nous précède, comme pour les Emmaüs. Et donc on peut aller avec lui, annoncer sa résurrection. Et il le veut. Et vous voyez, la résurrection, c'est l'élément central pour nous, parce que Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant. Et que c'est notre devenir. Un jour, nous serons réconciliés corps et âme, et nous serons dans la gloire. Alors c'est extraordinaire. Voilà. Je nous invite à méditer cela, dans ces jours-ci, dans ce temps de Pâques, et de rendre grâce à Dieu.